bienvenue dans cette nouvelle chronique naturaliste de la Nichoule, une chronique qui nous est proposée chaque semaine par des membres de la LPO Royan-Vercors, la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Alors aujourd'hui dans les studios, il y a François. Bonjour François.
Bonjour Radio Royan-Vercors.
Toi, t'es l'expert, on va dire, de la faune sous toutes ses formes. Et puis on a également un expert de la flore à nos côtés. Bonjour Luc.
Bonjour.
Alors toi, tu es botaniste et tu vas nous parler aujourd'hui du noisetier.
Oui, c'est pas banal puisque le noisetier, on a l'impression que tout le monde le connaît et en définitive, quand on le regarde un petit peu de près, on a beaucoup de questions, beaucoup de questions. Hein. Alors son nom latin, on va commencer par ça, comme ça après on passera à autre chose. C'est Corylus avellana. Alors Corylus, on pense que c'est l'allusion à l'enveloppe qui enveloppe la noisette. Hein, comme un casque. Corylus, ça viendrait de là. Voilà, ça serait un casque, en définitive, qui préserverait la noisette. C'est une plante de la famille des bétulacées, c'est-à-dire la grande famille des bouleaux et des aulnes. Hein, une grande famille avec, qui est reconnaissable à ses feuilles caduques, pour la plupart, et avec des chatons mâles et des chatons femelles. Hein. On en parlera après un petit peu plus longuement. Donc, auparavant, le noisetier, c'est le nom qu'on lui donne, hein, vous connaissez le noisetier, bien sûr, il prenait deux thés. Mais si on met deux T, on fait une faute d'orthographe.
Et hein? Pourquoi donc il avait deux T?
Parce que c'était le mot noisette qui était utilisé pour donner le mot noisetier. C'est comme ça, maintenant, il n'y a plus qu'un T, bien entendu. On appelle ça aussi le coudrier. Hein? Coudrier, ça vient de Corylus, hein, du nom latin, ainsi de suite. Donc, c'est toujours cette idée de casque. Alors, on sait, il y a une quinzaine d'espèces dans le monde.
Ah, quand même.
Et le noisetier commun, hein, le noisetier de chez nous, hein, lui, il est européen. Il est européo-caucasien, donc il va jusqu'au Caucase, il va jusqu'en Asie mineure, il remonte jusqu'en Norvège, et puis je crois qu'il n'est pas en Afrique du Nord. Donc voilà, c'est vraiment une européenne à très large répartition. Alors il est partout, et en définitive il n'est pas partout, hein. C'est une espèce qui va de des plaines jusqu'à 1500-1600 mètres d'altitude, hein. C'est juste, elle atteint à peine l'étage montagnard, hein. Mais n'empêche que c'est une plante voilà, qui gèle, donc il faut la surveiller, elle ne pousse pas à certaines altitudes. Alors, c'est un arbuste, le noisetier. Alors la grande nuance, c'est comment on fait la différence entre un arbre et un arbuste. Alors là, des définitions, il y en a à l'appel, hein. Je peux vous assurer que certains scientifiques et naturalistes et botaniste, et moi j'en ai beaucoup parlé au grand botaniste spécialiste des arbres qui est décédé au mois de décembre cette année, Francis Allais, et qui en discutait souvent. La définition d'un arbre, eh ben, je peux vous assurer qu'il avait 50 définitions. Tout le monde a une définition. Il y a une définition d'un forestier qui va dire il faut un arbre avec un tronc. Il y a des plantes qui vont pousser à très haute altitude, à 4000 mètres, 3000 mètres, dans des landes, des arbres. Puisqu'ils ont la fonction d'un arbre, qui vont faire 3 cm, 4 cm de haut, oui. C'est des arbres. Il y a des arbres qui sont couchés au sol, qui poussent sur plusieurs hectares. Enfin, il y a plein de définitions. N'empêche que là, on est. Donc, si on voulait faire une définition d'un arbre, ça pourrait dire qu'on a un tronc avec des branches. Là, ici, ce n'est pas le cas. Là, c'est un arbuste. Hein, c'est comme un sureau, c'est comme un cassis, c'est comme un groseillier. C'est plusieurs tiges à la base qui partent d'un coup. On voit très bien à quoi ressemble cette espèce de grand. De grands faisceaux comme ça qui partent du sol, ainsi de suite. Quand on y regarde de près, on voit bien qu'il y a des tiges qui sont toutes de tailles différentes. On connaît tous ça, puisqu'on a tous, enfin, je dis tous, peut-être pas tous, mais il y a plein de gens qui connaissent très bien le noisetier pour en avoir coupé une branche, coupé une tige, pour faire un piquet, pour faire un sifflet, pour faire différents usages comme ça, pour s'amuser, pour faire une canne à pêche, ainsi de suite. Bon, il y a plein de petits usages comme ça. Et on voit bien qu'il y a des grosses tiges qui font la grosseur d'un bras, pour ne pas dire plus, jusqu'à 10 cm, hein, puisqu'on a eu fait avec le bois de noisetier quand les diamètres sont importants, ça arrive jusqu'à 10-15 cm, des petits objets, hein, même plus que ça, des gobelets, des cuillères en bois, des manches d'outils, plein de choses, des petits objets comme ça. Donc il y a quand même de la masse pour faire un bois qui est vraiment très, très, très intéressant à travailler. Et donc, quand on imagine un noisetier avec tout ce type de branches, on imagine bien qu'il y a une sorte de succession, comme ça, d'apparition de branches, qui font qu'une branche va d'abord partir à la base du tronc, faire un bourgeon, hein, va monter très haut, très haut, très haut pour chercher la lumière. Une fois que la première année, ça va faire une grande, grande tige très longue. C'est celle-là qui nous intéresse quand on veut faire des cannes à pêche ou des choses comme ça. Et puis cette branche, elle va se ramifier l'année suivante, et ainsi de suite. Elle, ça va s'étaler, donc ça va commencer par monter très haut pour chercher la lumière, puis au bout d'un moment, ça va s'étaler comme une grosse boule. En ce moment, on les voit bien, hein, une grosse boule. Et on voit très bien que si on filmait le noisetier sur 100 ans, 200 ans, hein, des noisetiers ont 200, 300 ans, hein, même si on ne peut pas le mesurer comme ça, mais bien c'est bien des arbustes qui sont très âgés, et bien on verrait apparaître comme ça successivement des successions de branches pour rééquilibrer l'arbre, rééquilibrer l'arbuste chaque fois, pour qu'en définitive, et bien c'est presque une danse, hein, c'est presque une danse, c'est presque quelque chose qui est très... Alors on ne le voit pas comme ça, mais on voit bien que chaque année, l'arbre, et bien, il, en fonction des ressources qu'il a, en fonction du temps qu'il fait, en fonction des aléas, il a pu prendre un caillou dans un ébouli, un arbre qui lui est tombé dessus, ce qu'on va couper, il va rééquilibrer son arbre, son arbuste. Et pour ça, eh ben, il y a toute une série de comme ça. Amusez-vous à regarder un noisetier, vous verrez, vous comptez le nombre de tiges, comptez le nombre de branches, et vous faites une sorte de classe comme ça, savoir s'il y en a des petites, des grandes, des moyennes, des très âgées, des mortes. Et vous verrez qu'en définitive, c'est quelque chose de très très vivant. Alors ce noisetier, il est, les botanistes disent qu'il est monoïque, ça veut dire qu'il a sur un même pied le sexe mâle et le sexe femelle, les deux types de fleurs. Mais il n'est pas hermaphrodite, c'est-à-dire que les fleurs ne sont pas hermaphrodites, ça veut dire que ce n'est pas une fleur qui est composée du mâle et de la femelle, mais c'est bien le mâle d'un côté et les femelles d'un autre sur les mêmes branches. Hein.
Oui.
Alors c'est très particulier, hein. Auparavant les noisetiers, on les classait dans une grande famille qu'on appelait les apétales. Apétales, A ça veut dire privatif en latin, pétale sans pétale, c'était des plantes sans pétales, parce qu'on voulait absolument que les fleurs aient des pétales. Mais bon, c'est quand même des fleurs, il n'y a pas de pétales. Elles n'en ont pas besoin, elles n'ont pas besoin d'attirer les insectes, puisque la pollinisation se fait par le vent. Ça donne une quantité de pollen absolument astronomique. Les grains de pollen sont très légers, il faut qu'ils volent, il faut qu'ils s'envolent, et ainsi de suite. Et puis au petit bonheur, la chance, le vent va venir de ces chatons qui sont pendants. On voit ces espèces de chatons qui bougent comme ça, qui sont presque fanés ici à basse altitude. Et puis à 1000 mètres, ils commencent juste. Hein, donc sur le plateau, ça commence juste. Eh bien, ces fleurs mâles donc, donnent une quantité astronomique de pollen. Les fleurs femelles alors, sont plus difficiles à voir, mais sont très très belles. C'est magnifique à voir. C'est des sortes de petits bourgeons, un ensemble de petites écailles, comme un petit bourgeon qui donnerait des feuilles. Mais celui-là ressemble étrangement à celui qui donne les feuilles. Et dans ce bourgeon, démarre et sort comme trois petits filaments rouges. Hein, trois petits filaments rouges qui sont les capteurs, c'est le pistil tout simplement avec le stigmate, hein, c'est là-dessus que les grains de pollen vont venir se poser, vont venir féconder les ovules pour former la noisette, bien entendu. Hein. Alors, c'est des arbustes de sous-bois, ça supporte bien l'ombre, c'est des arbustes de clairière, mais c'est surtout des arbustes pionniers, c'est-à-dire c'est des espèces plutôt de grande lumière qui vont préparer l'arrivée de la forêt. On sait... dans l'histoire des climats, les archéologues et les gens qui s'intéressent à l'histoire des climats se sont amusés, c'est un bien grand mot, à carotter, c'est-à-dire faire des carottes dans les lacs, dans les systèmes lacustres, pour récupérer des limons, des sédiments. Ces sédiments, ils sont saucissonnés comme un saucisson. Hein. Mmh. Et chaque étage peut arriver, en l'analysant comme il faut, à voir les quantités de pollen qui existent dans ces sédiments. Et évidemment, il y a un étage, il y a des couches entières où on voit que le noisetier est dominant. Alors ça, c'est moins 5000, ainsi de suite. Avant, après la glaciation, moins 5000, là, à partir de là, où la glaciation, ça commence à se réchauffer, et il n'y a pas encore les feuillus, mais c'est bien, ça montre bien que le noisetier a été dominant à une période avant que ça s'installe. Parce que installer une forêt, ça ne s'installe pas comme ça, surtout après des périodes aussi froides qu'ont duré pendant très très longtemps. Voilà ce qu'on sait sur le noisetier. Et donc, il y a eu donc une grande extension à ce moment-là. C'est une espèce qui est donc comestible, on va dire même alimentaire. On en fait des huiles, on la mange évidemment comme noisette, et ainsi de suite, qui est vraiment un aliment absolument incroyable au niveau des vitamines, ainsi de suite. Je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne connais pas ça, mais on connaît la valeur nutritive des noisettes. Elle est très cultivée dans le monde. On en a fait des variétés, des différentes sélections qui ont été faites. Le plus gros producteur, c'est la Turquie dans le monde, qui produit vraiment des quantités astronomiques de la Turquie. La France en produit un petit peu, mais ce n'est pas vraiment son coin. Et historiquement, ben, la noisette, faisait partie avec la faîne, c'est-à-dire le fruit du hêtre, des deux graines, parce que ce sont des graines, hein, bien entendu, des deux graines qui étaient habituellement récoltées, conservées, parce qu'on pouvait les conserver pendant l'hiver. Et donc, on les retrouve dans les sédiments, dans les grottes, dans les systèmes préhistoriques et tout ça. On retrouve énormément de coquilles de noix et des enveloppes de faîne. Il faut attendre bien plus longtemps pour retrouver des plantes beaucoup plus grosses, comme la châtaigne, qui est introduite tardivement, en définitive, et le noyer encore plus tardivement. La châtaigne et le noyer sont des espèces introduites. Hein, donc, on a l'impression d'en voir partout, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc, dans leur aire d'origine, elles ont migré. Alors, l'époque romaine, il y a plein d'historiques là-dessus. On pourrait en parler prochainement dans une chronique. Pour terminer, on en fait évidemment plein d'usages. J'en ai parlé un petit peu. Des piquets, hein, des cannes à pêche, des arcs, des petits objets, des fagots, bien entendu. Il y a eu même un usage comme quoi le charbon de noisetier était très bien, très fin, donnait un grain très fin, et ça a été beaucoup utilisé par les dessinateurs, oui, comme un fusain. Hein, le fusain est donc le nom de la plante, mais c'est d'abord un charbon de... Et puis, pour terminer, quelque chose de très personnel, moi, j'ai vu faire dans le Beaujolais des paniers en noisetier.
Et oui, pour la vannerie sauvage.
Pour la vannerie sauvage. Alors, moi, j'ai vu faire ça auprès des paysans. J'ai vu faire mon papa faire ça auprès des paysans. Il allait se renseigner auprès des paysans. Évidemment, il n'était pas paysan, mon papa. Et donc, il était un peu regardé d'un œil un peu particulier. Hein. Et on lui expliquait qu'il fallait récolter les noisetiers en cul de lune. Donc ça, je me souviens trop de cette expression. C'est en définitive en sève montante pour que l'écorce, quand on prenait les coutis, c'est le nom qu'on utilisait, coutis coudriers, hein, et qu'on les tordait sur le genou, on décollait une partie de l'écorce qui était après retaillée comme une sorte de lame de bois et puis qui servait à tresser et surtout à faire des paniers. Hein. Il n'en a pas fait des très très jolis, mais bon, ça c'est autre chose, ça, il faut de la pratique après. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire sur le noisetier, on pourrait parler encore un petit moment. Hein. Alors je voudrais préciser une dernière chose, c'est que je suis beaucoup allé les voir moi personnellement, mais je me suis aussi renseigné avec le livre de Pierre Liotagui, qui est un ethnologue décédé il y a 3 ans, un grand grand spécialiste des arbres et des arbustes, qui a publié chez Actes Sud le livre des arbres et des arbustes, qui est une mine d'or, qui est absolument magnifique pour tous les gens qui s'intéressent à la nature, absolument se procurer ce livre-là si ça vous intéresse. Vraiment, on trouve beaucoup, beaucoup de choses. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui, pour la plupart des informations, viennent de ce livre-là. Voilà.
Et bon, on va remettre la référence de ce livre en lien avec l'article qu'on publiera sur notre site internet, parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une personne dans le Royan. Merci pour cette chronique, Luc. Est-ce que François, toi, tu voulais rajouter un petit truc sur l'importance de la noisette, peut-être pour certaines espèces?
Oui, c'est un des arbres préférés des écureuils. Donc voilà, les écureuils, ils aiment bien la noisette aussi, et le noisetier.
Oui, il faut bien que tout le monde se nourrisse. Alors il y a les charançons qui viennent manger des noisettes, et puis surtout des rongeurs, hein, sait très bien. Je crois que j'avais lu que l'écureuil mettait, je crois, 23 secondes pour l'ouvrir et la manger.
Ah ouais.
Je crois que c'est vraiment le champion du monde, là, vraiment le champion du monde.
Eh bien, merci à vous en tout cas pour cette belle chronique donc sur le noisetier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les ondes de Radio Royan Vercors. À bientôt.
Au revoir Radio Royan Vercors.